Je suis Chloé, je suis gilet jaune donc à Caen. J'ai 29 ans et je me suis retrouvée dans les gilets jaunes un peu par hasard, en tout cas propulsée un peu devant les gilets jaunes complètement par hasard. Et je pense que c'est un peu ce qui fait la force des gilets jaunes, c'est qu'on va au-delà de ce qu'on pensait être capable et on découvre de nouvelles choses. Près de chez nous, on découvre nos voisins, on découvre pas mal de choses. J'ai été militante pendant le CPE, donc c'était mes années lycée, qui remontent un petit peu, pendant la réforme du bac pro et pour la TVA équestre. Donc j'ai quand même un petit passé militant, mais j'ai jamais été dans un syndicat, j'ai jamais fait partie d'un parti politique. Voilà, j'ai toujours milité, mais un peu en freelance, enfin comme ça. Et du coup, je suis dans les gilets jaunes, je voyais bien quelque chose qui se passait en France depuis un petit moment, je n'arrivais pas à trop mettre de mots dessus. Et puis mon conjoint, qui lui n'est pas du tout militant, qui vient d'une famille plutôt aisée, ne comprenait pas du tout pourquoi des gueux là, quand ça a gueulé un petit peu. Et ça m'énervait, parce que j'arrivais pas à mettre de mots sur cette colère, parce que moi je la comprenais et ça m'énervait vraiment. Et du coup, j'ai commencé à écrire pour lui expliquer. Et puis j'ai partagé ce texte, et puis ce texte a été beaucoup repartagé, et puis je l'ai mis sur une page Facebook qui s'appelle l'automobiliste de Normandie en colère, donc ANEC, qui est maintenant une des pages gilets jaunes de Normandie les plus actives. Et ce texte-là a été beaucoup repartagé. Il a été repéré par leur modérateur qui m'a dit: Ah, t'as l'air d'être militante, de connaître un petit peu, est-ce que tu veux bien venir sur la page? Et puis on a fait une réunion, et puis il m'a avoué qu'en fait il n'avait jamais fait de manif de sa vie. Et il se retrouvait à gérer une page avec 65 000 personnes en colère, sans avoir aucun passé. Voilà. Donc il ne savait pas trop quoi en faire de ça, donc c'était un peu le bazar. Et on s'est lancé dans l'aventure sans vraiment savoir ce que ça allait donner. On a préparé des plans en calculant le nombre de voitures qu'il fallait pour bloquer le périph' de Caen, en calculant une voiture fait 4 mètres. Il faut combien de voitures si le périphérique, enfin vraiment c'est un truc de... Voilà. On est parti très très loin. Et puis bah en fait on a improvisé comme tout le monde. Voilà. Et puis les médias ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait à Caen, parce que Caen était une des plus grosses villes mobilisées. Et puis bah, ils cherchaient des têtes pour les filmer. Et puis Jérémy a fait: Ah, je vais pas être filmé. Et puis bah, qui c'est qui a une grande gueule dans l'eau? Bah, c'est moi. Donc je me suis retrouvée devant, et puis bah, les médias, petit à petit, quand ils prennent votre numéro de téléphone, bah, en général ils se le filent, ils se le rappellent, et puis j'ai eu la bonne idée de passer en pyjama le premier jour. Donc en fait ils m'appelaient la fille en pyjama, et c'était facile pour eux de me reconnaître dans la foule, parce que j'étais la plouc en pyjama bizarre au milieu de la foule de gilets jaunes, donc j'étais repérable. Et de ce premier jour, on a bloqué le périph, on est arrivé la semaine d'après à bloquer RVI, donc, je sais pas si... Tout le monde connaît Rond-Point Renault Truck. Et donc moi je faisais partie de la team RVI. Et du coup, tout se passait bien. Il n'y avait pas de tension encore à ce moment-là. La police, ça se passait hyper bien. Les gens, ils venaient boire le café, les gendarmes aussi. Enfin, il n'y avait pas de tension du tout. D'ailleurs, le 7 novembre, quand on a bloqué le périph', moi j'étais la première voiture avec devant qui menait le cortège. Il y avait 300 voitures derrière moi. La police arrive en moto. Je me suis dit, ils vont nous démonter. Ils me font ouvrir le carreau, ils m'arrêtent. Ils me disent, vous nous payez le café après? J'étais genre, ouais, ok. Et puis on est reparti, et ça s'est passé comme ça au début. Et c'est ça qui m'a mis très très en colère, c'est qu'en fait, moi je suis vraiment pas du tout anti-flic à la base, j'ai pas du tout de problème avec. Enfin, il y a des cons partout, j'ai des problèmes avec les cons en fait. Pas avec les policiers, pas avec les gendarmes, avec les cons, quels qu'ils soient. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait qu'on est passé de police avec nous à les applaudir quand on manifestait les premières fois à Caen. Je sais pas si vous avez fait les premières manifs à Caen, mais on les applaudissait quand on passait devant eux. C'était encore les héros des attentats. Et on est passé des héros à ceux qui nous mutilent en quelques semaines. Et ça s'est passé, nous, en tout cas sur Caen, au moment où le préfet a donné les ordres de dégager les ronds-points. C'est-à-dire comme ça, des gazages, des interpellations très violentes. On a au rond-point des RVI deux copains qui se sont fait fracasser la tronche, un qui a pris des grenades, des encerclements dans les jambes, qui a encore des bouts. C'est des galettes. Et on a des copains qui sont partis en prison dès le mois de décembre. Donc voilà, on est passé de un mois bisounours à prison, blessé grave. C'était très très violent. Surtout pour ceux qui n'étaient pas militants, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout ça. Pour tous ceux qui venaient de la campagne et qui voyaient juste les violences policières à travers les reportages sur TF1, dans les cités, voilà. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Ils se sont pris la vérité en pleine tronche. Du coup, on a évolué petit à petit, et très vite on a formé la Comcom. C'est une commission communication avec des gens qui étaient ici. On s'est rendu compte que notre outil principal, c'était de communiquer. Parce qu'en fait, on était face à des gens qui sont pas dans des partis, pas de syndiqués, qui viennent de milieux sociaux complètement différents, qui viennent de la ville, de la campagne profonde pour certains. Comment on fait pour avoir un socle pour parler à toutes ces personnes-là, sachant qu'il y a des gens qui n'ont jamais médité, des gens qui sont très aguerris, comme toi. Et du coup, c'était très compliqué de trouver une identité à ce groupe qui était tellement différent. Juste, je parle très vite, il faut me le dire, je parle très très vite naturellement. Donc il faut me le dire, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me faire un... Voilà, je le prendrai pas mal, je sais que je parle très très vite. Voilà. Et c'est très fouillis parce que j'avais mon cerveau, je suis en place, je suis très fouillis. Et du coup, on a créé cette communication. Donc, il y a eu plusieurs commissions. Donc, on essaie de créer un nouveau, une nouvelle vision de gérer un commun. Donc, en faisant des AG, là où j'ai vu certains, de nombreux AG. Donc, il y a commission action, commission communication. Et la commission qui a perduré le plus longtemps, c'est la commission communication. Et il y a eu de très belles choses de faites, de très belles idées. Ça n'a pas été simple tous les jours parce qu'on avait des idées très différentes pour certains. Parce que dans les gilets jaunes, il y a de l'extrême gauche, voire des anarchistes, comme de l'extrême droite. Et comment on met des gens qui ont des idées complètement politiques différentes ensemble, ça a été un long chemin. Sachant que moi, je suis plus d'un extrême gauche, alors c'est pas un secret, que de l'extrême droite. Et pourtant, je devais travailler et quand je devais prendre la parole devant les médias, je devais parler devant tout le monde. Sauf que dans tout le monde, il y a des gens qui ne partagent pas mon idée. Donc c'est tempérer toujours les choses. Et ça, c'est très compliqué parce que moi, il y a des sujets qui j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord du tout. Et je suis obligée d'être neutre parce que, voilà, par exemple, il y a beaucoup de gilets jaunes qui, par rapport aux migrants, c'est un sujet qui est très très compliqué. Donc du coup, par rapport aux médias, quand il y a eu des questions par rapport à ça, il fallait trouver le juste milieu entre mon propre avis et l'avis du commun, ou en tout cas de la plus grande majorité. C'est un exercice qui est très très compliqué. Quand il y a eu par rapport aux européennes, par rapport à Marine Le Pen, plusieurs fois les télés m'ont demandé « Et là, vous pensez quoi Marine Le Pen ?» J'ai envie de vomir, clairement, et je peux pas le dire, parce que je représente une entité où il y a des gens qui votent pour Marine Le Pen. Donc il faut juste trouver un milieu, et c'est pas évident. Voilà, à peu près, ce qu'on peut... Et par rapport à la vie du rond-point, j'ai été, moi, extrêmement touchée par certaines personnes. À RVI, s'il y en a qui sont venus, peut-être que vous reconnaîtrez les personnes auxquelles je fais allusion. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas prendre de café avec nous, qui ne voulaient pas forcément manger. Elles voulaient juste être là pour exister. Et moi, je suis hyper émue, je pense toujours à un garçon avec sa maman. C'est des gens qui ont des grandes difficultés sociales et sûrement financières. Et ils voulaient juste exister sur le rond-point. Et moi, ils me touchent profondément parce qu'ils étaient fiers d'être là. Fiers d'être avec leur gilet jaune. Ils n'ont jamais voulu un café, jamais voulu partager un repas. Ils étaient juste fiers d'être là. Et il y a des jours, il faisait très très froid. Et ils passaient des heures debout, la dame avec une canne, juste pour dire « je suis là ». Et c'est ça aussi les gilets jaunes. C'est des gens qui se sentent pour une fois exister. C'est les oubliés qui sont mis en avant. C'est les oubliés qui prennent la parole. Et c'est très important. Et c'est d'autant plus violent quand ces gens-là, qui d'habitude n'osent rien dire, et quand ils allument leur télé et qu'ils voient qu'on leur crache dessus en les traitant d'homophobes, de racistes, d'extrémistes, de violents, d'alcooliques et de tout team, c'est hyper violent parce que ces gens-là, déjà, on les méprise, on les voit pas au quotidien et maintenant on les insulte. C'est très très dur et j'ai vu les gens se radicaliser petit à petit dans la colère, mais je la comprends parfaitement cette colère parce que on nous crache dessus, on nous vomit dessus depuis des mois et on nous propose rien à part la violence. Donc les gens qui se radicalisent, je le comprends, mais j'ai jamais appelé à la violence contre les policiers parce que pour moi, c'est des victimes. Ils sont mis en bouclier. Par contre, je vais toujours parler aux policiers pour leur dire « mais baissez les armes » parce qu'en fait, vous êtes aussi un instrument de gouvernement pour mettre la pression sur nous. Ça n'a pas très bien marché sur quand j'essaye, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas de baguette magique, mais au moins j'essaye. Et j'ai été beaucoup décriée parce que j'ai une grande gueule. Mais j'ai essayé de toujours trouver un juste milieu, encore une fois, entre mes convictions et le commun. Et j'ai jamais cédé à la pression de certains pour faire plaisir aux autres. Parce que des fois, on m'a dit « Oui, t'es trop bisounours !» On m'a insulté, on m'a même menacé parce que j'étais bisounours, parce que je voulais pas taper du flic. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais pas appeler des gens à la violence parce que ça ne me ressemble pas. Si des gens veulent taper, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne l'appellerai pas. Et voilà, j'ai toujours essayé de faire tout ce que je pouvais en mon âme et conscience, et ça ne plaît pas toujours. Surtout, je pense, quand on est une jeune femme aussi. Dans les médias, j'ai fait un direct sur France Info. J'étais seule face à 4 hommes. Et en plus, ça, la maquilleuse m'a pouponisée. Donc elle m'a fait la peau très pâle avec des petites joues roses. Comme une petite poupée. Voilà. moyenne d'âge 45 ans sur le plateau. C'était, donc j'étais hyper à l'aise, hein. C'était super. Avec un sociologue bourgeois qui regardait Gilets jaunes de près de la télé, mais il était comme invité parce que c'est un grand copain. Voilà. Ah, je me suis regardé un vieux monsieur, je sais pas, il y avait la ministre qui arrivait, il lui a fait dans les bras, donc bon. Voilà, il disait, il parlait de son dernier resto avec le présentateur de l'émission. Donc voilà, on ne jouait pas dans la même team, clairement. Voilà, il y a vraiment deux mondes. Enfin, il y a vraiment deux mondes, et ce mec-là parlait des gilets jaunes, comme un grand bourgeois, quoi. Donc, quoi, c'est des violents, qu'il n'avait pas compris. Un petit peu énervant, ce genre de petit. Et puis, maintenant, le mouvement, il a du mal à repartir. Mais en même temps, le problème, c'est qu'en fait, on s'est habitué à tolérer l'intolérable. En fait, le gouvernement, il est toujours monté d'un cran. Les violences policières qu'on subit actuellement, ça serait passé il y a 10 ans, le gouvernement aurait fauté. Clairement, le gouvernement aurait fauté. Sauf que maintenant, on s'habitue à une main arrachée, deux mains arrachées, trois mains arrachées, un œil éborgné, deux, trois, et on monte comme ça. Il faut quoi en fait maintenant pour que les gens réagissent? Il faut qu'ils mutilent un enfant en direct sur un plateau télé? Il faut quoi? C'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, on nous apprend tellement à tolérer l'intolérable que les gens ne réagissent plus. Ils sont devant leur écran, oh, il y en a encore un qui a perdu un œil, oh, non mais merde, c'est pas tolérable ça. Je me souviens qu'en CPE, un gamin de lycée d'en face à Montreuil avait perdu un œil, ça avait fait un scandale. Parce que c'était l'un des premiers blessés au LBD il y a 15 ans, et ça avait fait un scandale. Maintenant, on s'en fout, on n'a rien à faire. Là, apparemment, ce que j'ai pu voir, je ne sais pas si c'est l'info encore vérifiée, mais il y aura un bébé qui serait mort à Mayotte. Donc, je ne sais pas si l'info est vraiment vérifiée. Si c'est le cas, enfin, on en est à un infanticide. Enfin, c'est quand même très, très, très grave. Mais non, tout va bien, les gens restent là, ne parlent pas, n'en parlent pas. Donc, voilà. Et ça, je pense que le gouvernement a très bien joué son coup, c'est qu'en fait, en faisant passer toujours plus d'intolérables, et que les gens réagissent dans la rue, mais n'allant pas leur casser la gueule, clairement, parce que moi, il y a un moment où les députés, enfin, moi, j'ai envie de les choper par la peau du cul et les traîner en place publique, les humilier, quoi. Ils nous humilient, il faut les humilier, quoi. Il y a un moment, je suis pas pour la violence, mais pour l'humiliation, pourquoi pas. Non, mais voilà, il y a un moment. Non, mais c'est comme, je suis contre les cocktails Molotov, le Kakatov, par contre. Ça humilie, ça blesse l'ego, mais ça tue pas. Donc voilà, je suis. Voilà. Ce n'est que mon avis. Mais il y a un moment, il faut demander à rendre des comptes. C'est pour ça que je suis allée à la préfecture plusieurs fois, faire chier le préfet, faire chier les députés, parce que pour moi, il faut rendre des comptes. C'est pas tout de dire je suis élue ou non, je suis du gouvernement, je suis protégée. Ces gens-là, ils sentent au-dessus, ils sentent une tour d'ivoire. Et ils sentent inatteignables. Et je pense qu'il faut aller les chercher maintenant. Les chercher physiquement, moralement, il faut les atteindre. Là, le Vigoureux, par exemple, sa permanence, il l'a fermée. Ça y est. Elle a été vandalisée plusieurs fois, il se sent en danger, je pense. Son intégrité est en danger, il l'a fermée. Il faut continuer, en fait. Il faut faire pareil avec Bouygues, faire pareil avec tous les députés qui sont la majorité et qui nous crachent dessus. Il faut faire pareil avec monsieur le maire de Caen. Voilà. Je pense qu'à un moment, il faut aller les chercher. Pas les violenter physiquement, mais c'est une guerre aussi morale et il faut aller leur dire maintenant, vous allez rendre des comptes. C'est trop facile de nous vomir dessus. Et le problème, c'est que la colère des gens, moi, ça m'a fait de la peine. Dimanche soir, il y avait beaucoup de monde, une colère. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Et je pense que l'enjeu primordial maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Parce qu'à chaque fois, on est dans la rue, pas content, pas content. Au bout de 2 heures, pas content, on rentre chez soi. Super. C'est frustrant. C'est hyper frustrant. Donc, il va falloir que nos petits cerveaux, ils trouvent une solution, la colère, la diriger quelque part, pour en faire quelque chose de constructif. Ce qu'on fait là, je pense que c'est constructif. Les AG qui ont été tenus, c'est constructif. Maintenant, au niveau national, il faut en faire quelque chose. Donc c'est soit on monte tous à Paris et on va lécher par la peau des fesses, soit il faut faire vraiment quelque chose de... une révolution. Enfin, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, sachant que gueuler dans la rue, ça ne sert à rien. Avoir des morts et des éborgnés, ça ne fait réagir personne. Un 49-3, oh, le gouvernement n'est pas gentil, il nous écoute pas. Non mais c'est ça maintenant. Non mais... voilà, les gens, ils sont. Moi, j'en ai parlé ce week-end avec des gens. Ah, c'est scandaleux. Et vous allez faire quoi? Ah, c'est scandaleux. Vous allez faire quoi? Oh, c'est scandaleux. Voilà, en boucle. Les gens, c'est en boucle, c'est juste, c'est scandaleux. Mais personne ne réagit. Personne ne va demander des comptes à son député. Personne ne va faire chier les élus pour leur demander des comptes. Et donc, c'est le problème. On dit juste, c'est scandaleux, mais on ne fait rien et on n'a pas de solution. Et je pense que ça importe. Ça serait bien que les gens, les professeurs d'université, les gens connaissance de ce qui se passe dans d'autres pays, qu'on ait connaissance de la loi, qu'on ait connaissance de ce qui est légal, pas légal, ou même quand c'est pas légal, comment on peut voilà. Et ben, nos outils. Il faut trouver des outils, des nouveaux outils, parce que la lutte qu'on connaît avec les syndicats ne fonctionne plus. La lutte par les manifs ne fonctionne plus. C'est à nous de réinventer et de trouver de nouvelles solutions. Voilà, et je parle beaucoup et très vite, excusez-moi.
Bah, Bérangère, si tu veux, enchaîner.
Bérangère, je suis militante syndicale du départ. Donc j'ai un petit problème de légitimité, en fait, à être là. Mais cela dit, Chloé m'a rassurée, elle m'a dit non, elle a toujours été dans les gilets jaunes. Donc. En fait, j'ai rencontré Chloé avant le 17 novembre. J'avais entendu parler des gilets jaunes fin octobre, début novembre. Puis il y avait tous les gilets jaunes qui commençaient à apparaître sur les pare-brises. Et en fait, après, je regardais plus que ça, en fait, et je les comptais. J'ai dit, là, il y a une voiture sur cinq, en fait, il y a un gilet jaune. Enfin, ça devenait un peu obsessionnel. Et puis, avec des camarades du syndicat Solidar Calvados, on en a discuté. C'est un sujet qu'on a imposé, en fait, à tous les ordres du jour des réunions syndicales. Enfin, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis avec un copain, Clément, hyper investi aussi dans les gilets jaunes, on est allé à une réunion, je crois que c'était la deuxième sur le parking de Boulanger, le dimanche qui précédait le 17 novembre, pour voir un peu, un appel à réunion avant le 17, pour organiser le 17, et donc on est allé avec le camarade, avec le copain, pour voir un petit peu ce qu'ils disaient. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois Chloé et Jérémy. Et il y en avait un troisième, mais qui n'a pas pris la parole, je crois. Ouais. Chloé commence à donner une liste de revendications. Et là, par rapport à... C'est-à-dire que même avant le 17 novembre, il y avait autre chose que la taxe, la carbone, le 80. C'est-à-dire que tu disais, c'est pas possible de se suicider au travail. Alors, évidemment, en tant que militante syndicale, effectivement, c'est pas possible de mourir au travail. Les conditions de vie réservées dans les EHPAD, il y avait toute la question de la CSG pour les retraités à ce moment-là. Enfin, il y avait tout un tas de revendications déjà qui traitaient de la justice sociale, des conditions de travail, des conditions d'existence qui étaient données. Et du coup, avec le copain, on était un peu scotchés, quoi. On partage quand même un très grand nombre de revendications avec ce qu'il dit là. Et il y avait peut-être 150 personnes qui étaient présentes, avaient l'air d'adhérer en fait à ces revendications. Alors il y avait la question qui a été évoquée en négatif en fait sur la question des migrants, qui a toujours été un espèce de serpent de mer en fait dans les revendications. Je me souviens, il y a dû y avoir une intervention sur la question des migrants. Parce que du coup, moi, j'étais hyper attentif, en fait, hein, parce que ce qu'on disait avant, enfin, a priori de ce mouvement, c'était que ça devait être des fachos à moitié poujadistes, enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et donc, il y a quelqu'un qui fait une intervention sur les migrants, mais un peu neutre, en fait, et quelqu'un d'autre prend la parole en disant « Non, mais c'est très louable, ce combat-là, mais juste, c'est pas le nôtre. » Et en fait, c'était le début de « On met ça sur le côté et on n'en parle pas parce qu'on sait que ça va diviser. » Alors, c'est toujours revenu, en fait, hein, par des fenêtres, mais notamment sur... Il y a eu des actions de blocage du ferry, où il y a eu deux groupes de gilets jaunes. Il y avait ceux qui essayaient de faire rentrer les migrants dans les camions, puis ceux qui les dénonçaient aux flics, en fait, quoi. Donc, elle revenait comme ça, cette question. Mais bon, la plupart du temps, on essayait de la mettre sur le côté. Alors moi, j'ai toujours dit que j'étais militante syndicale, en fait. Enfin, je me suis présentée, je voulais pas... Enfin, j'avais pas... Déjà, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais j'avais pas envie d'être... Enfin voilà, j'arrivais avec mon bagage et mon passé et mes méthodes de militante. Donc je l'ai toujours dit et je ne me suis jamais fait jeter. Je ne l'ai jamais caché. Et en même temps, on n'a jamais essayé de récupérer quoi que ce soit. Donc de fait, ça a toujours été... c'était comme ça. Alors pour le coup, moi j'ai pas fait les actions du premier matin, j'avais fait la manif en fait le matin, puis j'avais été rejoindre un rond-point l'après-midi. Et j'ai fait après toutes les manifs, mais j'étais pas vraiment sur un rond-point en particulier, j'étais venue sur le rond-point de RBI après un appel sur Facebook de Chloé qui appelait à rejoindre le rond-point et j'y étais allée et j'y avais passé un bon bout de temps. Et c'était encore, c'était le début et c'était encore le moment où, à mon sens, où on pouvait parler en fait politique et revendication. C'est-à-dire qu'il y avait cette période où on pouvait, parler politique, quoi. Et très rapidement, quand ça s'est durci, en fait, c'était plus possible. La fenêtre de tir pour parler revendication s'était fermée. Il n'y avait plus qu'un seul mot d'ordre, c'était Macron démission. Puis après, il y a eu les violences policières. Et c'était plus, c'était voilà, on tente, enfin, ce qu'on veut, c'est que Macron dégage. Et puis, bah, on reparlera de ce qu'on veut après. Et ça a été un peu, enfin voilà, ça s'est tout de suite un petit peu resserré. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu une commission revendication qui n'a jamais eu de succès. Enfin, je crois que personne n'y est jamais allé, en fait. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il y a eu des groupes affinitaires qui se sont... Voilà, et les gens discutaient de façon informelle des revendications, mais la com-revendication n'a jamais fonctionné. Il y a eu le RIC aussi, et c'est pareil, j'avais l'impression que c'était le RIC, c'était une façon de discuter de la forme et pas du fond, et que ça permet de solidariser les gens entre eux sur des revendications qui permettaient de surtout pas diviser. Et là, enfin, voilà, tu parlais d'extrême droite tout à l'heure, bah ouais, c'était très rapidement, il y a un mec sur Caen, Dunel, pour citer, qui s'est en fait présenté au maire directement et qui s'est revendiqué représentant des Gilets jaunes, et ton ami, oui, c'est vrai, et ton ami. En plus, un truc autour, juste, en gros, sa seule revendication, il me semblait que c'était le prix d'essence, enfin, c'était un euro le litre. Et en fait, bon, très vite, en fait, ça a quand même... Enfin, toi, tu as démenti. Très vite, de toute façon, comme les leaders n'étaient pas acceptés, pas plus lui qu'un autre. Et bon, ça l'a un peu calmé, et il s'est donné le rôle du mec qui assure la logistique. Et du coup, il était accepté sur les ronds-points, sur les actions, parce que c'était le mec qui était capable de faire venir des gens, de... bon. Et il n'y avait pas moyen de le virer, en fait. Quoi, les gens ne voulaient pas, en fait. Il était là, et c'était... Non, mais bon, voilà. On parle pas de parti politique, il est là, il fait son job. Voilà. Par contre, il y a eu une rupture avec les élections européennes, où là, il est sorti du bois, et très clairement, il a fait campagne pour le Rassemblement National, et c'est à ce moment-là que, sur Caen, en tout cas, les groupes de Gilets jaunes se sont complètement atomisés par affinité, en fait. Hein. Et enfin, pour moi, c'est un tournant un peu dans le mouvement, enfin, le printemps, quoi. Et ça a été un peu plus clair. Alors, du coup, ouais, moi, j'étais pas, enfin, je ne revendique pas d'un bon point. Par contre, effectivement, j'étais dans la commission, dans la Comcom, comme on l'appelait, et du coup, c'était un peu le groupe affinitaire. Alors, ça n'a pas eu lieu tout de suite, en fait. Il y a eu tout le moment où les actions de blocage étaient possibles, des actions plus ou moins réussies. D'ailleurs, parfois, il y avait des trucs un peu merdiques. Je sais que dans la salle, Clément. On a participé à un blocage. C'était au centre routier. On s'était auto enfermé en fait dans le truc. Enfin, il y a eu un incendie sous le périph. Enfin, c'était un peu catastrophique. Et c'était étonnant parce qu'en fait, deux jours avant, sur un des ronds-points où il y avait des blocages habituellement, il y a eu un appel à se retrouver dans deux jours. Enfin, dans deux jours, pour faire une action un vendredi soir un peu d'envergure. Et en fait, personne n'avait réfléchi à quel type d'action. Et c'était l'improvisation totale. Et ça, on l'a toujours retrouvé, en fait, il y a... Enfin...
Oui, c'est bordel.
En fait, c'était toujours le bordel. Il n'y avait jamais rien d'anticipé réellement, alors qu'on se disait, allez, on se retrouve dans deux jours. Et tout le monde pensait que les autres allaient réfléchir à des actions.
C'est le problème, c'est qu'il n'y avait pas de part à un leader.
Mais oui, certainement. Enfin, je sais pas. Mais bon, du coup, il y avait un peu des choses farfelues qui pouvaient être proposées, mais c'est quand ça devenait compliqué de faire des blocages, en fait, et que rapidement on était viré. Alors après, il y a eu la mise en place des AG. La première AG, alors je sais plus quand est-ce qu'elle a eu lieu, si c'est en décembre. Qui a eu lieu au squat du Marais. Et du coup, c'était hyper important que ce soit dans le squat du Marais, parce que du coup, ça donnait une tonalité quand même politique, un peu plus orientée. Ce qui n'a pas empêché les fachos de venir. D'ailleurs, donc le copain du Marais qui a accueilli l'AG a présenté un peu ce qu'était le squat du Marais. Il y a ces mecs-là qui ont un peu gueulé, et en fait, toute la salle, leur a dit « non mais vos gueules ». Donc en fait, c'était hyper bien aussi de visibiliser le fait que, en fait, pour la plupart des gens, ça posait pas de problème d'être ici. Et donc ça a été la première AG, où il y avait, je pense, à peu près 400 personnes, et où on a décidé cette organisation en commission. Il y avait la commission action, commission logistique, les médics, la sécu, la com-com, revendication qui n'a jamais vécu. Et donc là, du coup, voilà, il y a eu, du coup, bah, comme de toute façon, il n'était plus possible de bloquer quoi que ce soit, il y avait les réunions la semaine et la manif le samedi. Et c'était des semaines de fou, quoi. Alors le mardi, c'était la com-com. Et il y avait une intercom, parce qu'en fait, c'était... on avait comme un souci de transparence et on avait envie aux AG de dire tout ce qui se passait dans les commissions. Mais juste, c'était super chiant, quoi. Donc les gens qui venaient aux AG, eux, la plupart voulaient que ce soit un lieu de coordination d'action et qu'il se passe quelque chose après, quoi. Donc on s'était dit, on va faire une intercom qui permet de débriefer sur ce qui se fait dans les coms. Donc l'intercom, c'était le jeudi.
3 réunions par semaine minimum.
Et l'intercom servait plus ou moins à préparer l'AG. Moi, j'ai pas vraiment de souvenir d'AG qui était vraiment satisfaisant. En fait. Enfin, c'était toujours un peu le bordel, le bazar, quoi. Enfin, les gens partaient, il y a des décisions qui se prenaient alors qu'il n'y avait plus personne. Donc, un truc normal, quoi, d'AG. Un truc normal d'AG. Alors, la com-com, en fait, ouais, c'était à la fois gérer la com en interne, comment on communique entre nous, puis comment on communique avec l'extérieur. Alors, elle a été, dès le début, en fait, il y a eu une espèce d'OPA par des militants, en fait, plutôt politiques. Les gens qui ont un peu l'habitude de parler. Alors, il y avait quand même 3-4 personnes. Qui n'étaient pas du tout militants à la base, et qui sont restés. Et puis après, ça s'est un peu étoffé et c'est devenu un peu plus varié. Mais de fait, quoi, la communication, tout le monde avait bien saisi que c'était un peu... que c'était important, quoi. C'était stratégique, en fait, d'être dans cette com-là. Et elle a même été dénoncée, en fait, comme étant une espèce de direction du mouvement. Mais parfois, juste titre, en fait. Enfin, de fait, parce qu'on voulait être neutre, enfin, comme tu dis, dans la communication, mais en fait, on ne l'est jamais. Donc, on arbitrait, parce qu'en fait, on a fait énormément de communiqués de presse. En fait, ce qu'on voulait, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait un truc de dit dans la presse, il y avait 2 jours après un communiqué de presse pour donner le point de vue des Gilets jaunes.
Et on préparait aussi l'intervention à la télé.
Et on préparait les interventions
à la télé. Je parlais pas à mon nom. Enfin, quand la télé, c'est la com-com qui m'aidait à préparer. Enfin, j'ai jamais fait ça toute seule. Enfin, quelques fois, mais en général, la com-com me disait ouais, et Marine Le Pen, j'étais invitée sur un plateau avec Marine Le Pen. J'hésitais à y aller ou pas. Et c'est la com-com qui m'a dit ça pue. Et du coup, par la com com, je n'y suis pas allée. Ben, moi, il y a un appel à com com, j'y serais allée. Mais voilà, par respect pour la communication. Enfin, on essaie vraiment d'être le plus transparent possible. Il n'y a pas de leader, encore une fois, et on écoute le groupe. Et le groupe n'a pas voulu qu'on y aille. Et voilà.
Non. Donc, de fait, il y avait de plus en plus de monde dans cette com. Alors, moi, j'y ai vécu un moment de politisation, en fait. C'était une réunion qui avait lieu au Marais, de la com-com. Et il y avait, en fait, dans cette com-là, il y avait un ancien élu du FN, mais qui était plus... il les avait attaqués ensuite, je ne sais plus pour quelle raison. Enfin, il était hyper difficile à situer, en fait, parce que visiblement, il avait un peu changé. Et un jour, il nous présente un communiqué de la France en colère, de Drouet, parce qu'il voulait être, en fait, le relais de ce groupe-là sur Caen. Et donc, il nous lit le communiqué. Qui tournait beaucoup sur le train de vie des députés, sur les collisions à moitié complotistes, en fait, là, du groupe, je ne sais même plus le nom des espèces de clubs privés auxquels les uns et les autres appartiennent. Et donc, sur le coup, il y a pas mal de gens qui étaient là, qui disent, bah oui, le gilet jaune, hein, qui étaient là pour dire, bah oui, il faut souscrire à ce communiqué. C'est important. Et puis d'autres qui ont eu des prises de parole en contre, en fait. Et du coup, c'était pour la première fois qu'il y avait un vrai débat sur les revendications, en fait, et sur le fait que, bah oui, c'était peut-être un peu limite, en fait, comme revendication, simplement le train de vie des députés, et puis le fait qu'il y ait une espèce d'oligarchie qui domine, bah oui, en fait, enfin, on le sait, ça apporte... Mais c'était intéressant d'en discuter, c'est le seul moment où j'ai vu un débat avec des gens qui pouvaient changer d'avis, en fait. Et ça voilà, mais... Je n'ai pas vécu plus que ça. Donc voilà pour l'organisation. Après, il y a eu, alors, je sais pas si c'est une grève, il y avait un appel à la grève, le premier appel à la grève, en fait, le 7 février, qui était sur le pouvoir d'achat, il me semble, un truc comme ça, enfin, qui se voulait reprendre un peu les revendications des Gilets jaunes, mais pas tant que ça. Ça, c'est. Il y avait un appel à la grève. Heureusement qu'il y avait vachement de Gilets jaunes sur cette journée de grève-là, parce que sinon, il n'y avait pas non plus énormément de monde. Et c'était la grève que les Gilets jaunes avaient appelée, enfin, notamment François Bouleau, grève générale et reconductible. Et le truc, c'est qu'il y a des gens, ils ont vraiment reconduit la grève, en fait. Enfin, il y a des Gilets jaunes qui ont reconduit la grève, pas beaucoup, deux à ma connaissance, mais du coup, ils étaient complètement isolés, en fait, sur leur lieu de travail à avoir reconduit et avoir des problèmes avec leur patron. Et en fait, on avait prévu, à Solidaire, on s'était dit qu'on ferait une AG après pour décider de la reconduction, etc. Puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'est parti en manif sauvage derrière. Pas d'AG, des gens qui se mettent à reconduire tout seul, et là on s'est dit, bah merde, en fait, on peut pas. Enfin, il faut qu'on se voit, quoi. Et donc, Solidaire a organisé une réunion le 6 au soir avec les Gilets jaunes, et ça a été la première rencontre où on a pu discuter et un peu faire le clair aussi sur un tas de confusions qu'il pouvait y avoir, et pourquoi le camion il part pas en manif sauvage. Bah, non, parce que le camion, c'est un peu l'institution syndicale, alors il peut pas partir, ça veut pas dire que les militants partent pas, mais bon. Ça a permis comme ça de débloquer tout un tas de trucs, et c'était la première rencontre, et puis après il y a eu des intersyndicales avec les Gilets jaunes, notamment pour préparer le 19 mars. Je crois qu'à Caen, ça a été le seul endroit où il y a eu des blocages de rond-point Gilets jaunes intersyndicales. Alors évidemment, c'était merdique parce que un blocage organisé par une organisation syndicale, c'est toujours limité dans le temps, négocié. Donc en fait, ça bloque un temps, mais c'est toujours un peu frustrant. Et puis bah, là, il y avait des ronds-points où les Gilets jaunes étaient un peu tout seuls, des ronds-points où les syndicats s'étaient mis un peu tranquillou. Puis à 16h, il y avait une manif de prévu, donc les syndicats ont tout remballé. Du coup, grosse frustration du côté des Gilets jaunes. Et puis les flics sont arrivés, puis il y a eu 3 interpellations, enfin, convocation le lendemain, et puis 3 condamnations. Après, il y a eu une solidarité avec les condamnés, mais c'était en fait un moment horrible. Moi, j'ai trouvé horrible parce que du coup... Et c'était d'ailleurs la défense de l'avocate, c'est pourquoi il n'y a pas de syndicalistes, en fait, parmi les gens qui sont jugés, quoi. 3 gilets jaunes, pourquoi, quoi. Et c'est, enfin, ouais, c'était un peu un procès, moi j'ai assez mal vécu. Bon, il y a eu d'autres, ensuite, réunions de convergence, notamment pour le 1er mai. Et, par contre, il n'y en a pas eu pour le mouvement actuel. Alors, du coup... Parce que mouvement sur les retraites, c'était certainement l'occasion pour les syndicats de reprendre un peu la main sur les mobilisations. Et en fait, moi, je pensais naïvement qu'il y aurait, avant le 5 décembre, des intersyndicales avec Gilets jaunes, et ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu des AG interpro qui étaient ouvertes, mais des réunions en tant que telles, il n'y en a pas eu. Avec, du coup, je pense, de part et d'autre, un sentiment d'instrumentalisation. Enfin, là, c'est un peu mon sentiment, peut-être un peu de creux de vague aussi, quoi, où les syndicats sont contents de faire appel aux Gilets jaunes pour bloquer, pour faire du monde en manif. Et puis, à contrario, si la manif, elle peut être déclarée par les syndicats, bah, ça peut être pratique. Et puis, bon, voilà. Donc, un truc qui n'a pas été vraiment... Enfin, bon, une ambiguïté qui persiste. Moi, les Gilets jaunes, du coup, le fait de pouvoir faire des manifs sauvages, non déclarés, enfin, le bazar, la non-organisation, en fait, il y avait quelque chose d'hyper émancipateur, quoi, libérant. C'est-à-dire qu'on s'autorisait à faire plein de trucs. Donc, ça a été. Je pense que le mouvement actuel, il est ce qu'il est parce qu'il y a un nom de Gilets jaunes derrière qui pousse très très fort à faire autre chose que ce qu'on faisait depuis des décennies. Alors par contre, c'est très perturbant parce que ça pose la question du poids de la grève dans tout ça. Moi, j'avoue, je suis dans une grosse période de nœud au cerveau, en fait. Je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, tu posais la question, c'est pas... Mais non, mais moi non plus, en fait, je sais pas. Je vois mes collègues, là, qui sont pas du tout, ils sont pas du tout révoltés. Hein. Ils ont un peu fait grève, mais là, ils vont plus faire grève. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi, voilà. Ouais, puis il y avait donc du coup aussi la question du printemps, en fait, qui a été pour moi un tournant. Les élections européennes, les manifs interdites. Et ça, c'est pareil. Ça, à partir du moment où le périmètre du centre-ville était interdit, on ne savait plus trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait rentrer, est-ce qu'il fallait pas rentrer? C'était trop violent, pas assez violent. Il y avait autant de raisons. Enfin, il y avait autant de personnes pour dire qu'il n'y avait plus de personnes en manif parce que c'était trop violent que de personnes pour dire qu'il n'y avait plus de monde en manif parce que c'était pas assez violent. Enfin, ils nous ont usés, en fait, quoi. Alors si, on a quand même réussi une fois à rentrer, c'était très chouette. Mais ça, voilà, ça a été des épreuves, en fait, qui ont vachement usé et qui ont, du coup, atomisé, en fait, les groupes de Gilets jaunes. Aujourd'hui, sur Caen, il y a un groupe de Bretteville, du rond-point de Bretteville. Enfin, on s'est recentré, en fait, sur des ronds-points et par affinité. Et je crois, par ailleurs, que ceux qui étaient dans la com-action et qui étaient plutôt d'extrême droite, ils sont plus trop nulle part, en fait. Ils reviennent...
Ah bah vas-y, Chloé.
Et juste par rapport aux leaders et à l'extrême droite, on a eu un petit souci, nous. Enfin, je pense que de l'extérieur, ça ne doit être pas forcément. Mais on raconte partout en France, on ne veut pas leader, on ne veut pas leader. Mais Berger, on a rigolé tout à l'heure par rapport à la prise de parole. C'est qu'en fait, en Manille, tout le monde disait on ne veut pas de leader, mais qui prend le micro, qui machin. Et en fait, forcément, bah, il faut toujours des gens qui sont devant pour tenir la banderole, des gens pour dire bah, il faut des gens. Et du coup, on ne veut pas de leader, mais en même temps, on veut pas. Enfin, c'est hyper compliqué. Et, du coup, on s'est retrouvé à prendre des décisions sans être forcément. On n'a pas été choisi forcément par un vote. Enfin, c'était hyper complexe comme situation. C'était un peu, voire chiant. Parce que franchement, j'ai pris la place de merde. Parce que quand c'était bien, c'était pas grâce à moi. Et quand c'était mal, par contre, c'était toujours ma faute. Donc c'est franchement la place de merde. Pareil pour la page qu'on gère, donc Annec, Automite m'a mis en colère. Parce qu'on diffuse des infos, mais quand on diffuse pas cette info, bah y a personne, donc c'est de votre faute s'il y a personne. Quand on en diffuse trop, les flics sont là, donc c'est de votre faute. Putain! Donc pendant un an et demi, c'était aussi hyper usant par rapport à ça, parce que entre le trop, pas assez, t'es trop devant, t'es trop derrière, et on en dit trop, et t'en dis, oh putain, c'est chiant. Et les gens aussi, ils ont du mal à se prendre par la main, parce que beaucoup de gens nous disaient, je veux pas de leader, par contre, je veux que vous me preniez par la main pour aller manifester. Bah non, vous n'avez pas, enfin, on ne savait pas quoi faire en action. Enfin, moi non plus, enfin, proposer. Il y a toujours ce problème-là, ce paradoxe, c'est que les gens ne veulent pas être des moutons, mais en même temps, ne veulent pas prendre leurs responsabilités et agir tout seul. Du coup, on se retrouve toujours dans des situations un peu de merde, parce qu'en gros, les gens, depuis qu'on est tout jeune, on nous apprend à suivre. Suivre un professeur, bien écouter, suivre des gens, écouter ses parents. On apprend toujours à être le gentil petit enfant parfait, modèle. Et une fois qu'on est adulte, ben on fait pareil. On suit son petit patron, on suit son conjoint, on écoute ce que ses parents ont donné comme conseil, et puis voilà. Et s'émanciper, c'est très compliqué. Et expliquer aux gens qu'il faut qu'ils s'émancipent et qu'ils prennent des décisions eux-mêmes, c'est pas simple. C'est aussi, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du milieu militant, qui sont pas habitués à ça, c'est pas été toujours évident. Et moi, il y a des fois où on se sentait un petit peu tout seul, parce qu'il fallait prendre des décisions sans que ça en ait l'air. Moi, je me suis retrouvée avec le. Je sais pas si vous connaissez le monsieur qui dirige le Parti pour la France à Caen. Un mec bien sympathique, hyper sympa. C'est vraiment cette droite limite néo-nazi, hein. C'est de la droite, droite. Qui m'a envoyé un petit message privé pour me dire que. Oui, voilà, ça je l'ai pas dit. Ça s'est fait en amont. Il y a plein de choses comme ça, la guerre avec Bunel, la guerre avec l'extrême droite, que ce soit avec ce mec-là, Parti pour la France, ou avec Bunel qui est un peu plus tempéré, on va dire ça comme ça. On l'a pas montré sur la scène publique pour pas diviser, mais en amont, il a fallu prendre des décisions et se mettre en danger aussi, parce que les mecs d'extrême droite, c'est pas forcément les plus gentils. Et quand on dit non à un mec du Parti pour la France en lui disant je te bloque de ma page et je te laisserai pas dans les gilets jaunes, et si je te vois, j'irai m'expliquer avec toi. Bah, c'est aussi en son nom qu'on parle et c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut se rendre compte, c'est que bah il y a des guéguerres qui sont faites en interne, on n'a pas pu en parler publiquement, et c'était vraiment une place de merde, clairement. Voilà.
Merci. Et ben, Antoine, Jean-Baptiste, si vous voulez enchaîner, je pense que c'est mieux avant de prendre une petite question.
Ok, c'est bien.
Ok. Avant les questions, ouais, je pense que c'est mieux, c'est ce qu'on a l'habitude de faire plutôt. Du coup, allez-y.
Ok. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci Étienne et merci à toutes les personnes qui participent à l'organisation du séminaire de nous avoir invités, de nous donner l'opportunité de participer à cette discussion et en présentant nos travaux. Donc, on va avec Jean-Baptiste parler de notre enquête qu'on a menée sur le mouvement des Gilets jaunes à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise et stéphanoise. Donc une enquête qui est toujours en cours et que l'on fait avec, comme tu l'as dit, Étienne, trois autres doctorants et doctorantes. Donc Valentin Thomas, qui est un doctorant à Paris Dauphine et qui travaille sur sociaux des sciences plutôt, Marion Lang, qui est politiste et qui est plutôt sur l'étude des dispositifs de participation institutionnalisés, Christophe Parnet, qui lui... plutôt sur les réformes territoriales, l'institution des métropoles à Lyon et à Marseille, Jean-Baptiste qui travaille sur les politiques d'innovation, et moi-même sur la représentation et la prise en charge des classes populaires dans les politiques urbaines. Alors je prends le temps de dire ça pour signifier qu'aucun de nous travaille en fait sur les mobilisations sociales, et pour aucun de nous, le mouvement des Gilets jaunes a vraiment, directement du sens dans notre travail de thèse, puisqu'on est tous en thèse. Alors je voulais commencer par là, simplement pour parce que le but, on s'est dit, vu qu'on a un petit peu de temps aussi pour s'exprimer ici, le but c'est aussi de restituer les questionnements méthodologiques qu'on a eus sur cette enquête, nos interrogations, notre démarche, autant que ce qu'on peut appeler des résultats d'enquête, en tout cas, comme je dis, l'enquête n'est pas terminée, mais quelques résultats. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de partager un peu, d'ouvrir cette boîte noire de l'enquête. Donc ça commence par dire d'où est-ce qu'on parle et comment on a essayé d'appliquer des questions, des problématiques de sciences sociales à un terrain sur lequel on est rentré finalement sans trop savoir au début ce qu'on allait y faire. Puisque donc, Jean-Baptiste va revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'au début on s'est lancé sur le terrain, on ne savait pas trop si on faisait une enquête pour participer à un mouvement ou si on rentrait dans un mouvement pour faire une enquête, c'était un peu mélangé, même si très rapidement c'est possible de faire cette enquête. Donc, au début, on avait très peu de questionnements formalisés, hein, pas parti avec un protocole, et ces questionnements étaient surtout travaillés par ce qu'on pouvait raconter dans les médias ou les premiers observateurs sur le mouvement. Et on a appliqué à ça, non pas d'autres questionnements, mais plutôt des réflexes de sciences sociales issus de notre formation, donc avec des premières questions qui sont les personnes mobilisées que l'on rencontre, en essayant de ne pas homogénéiser ou essentialiser ce mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire de faire comme s'il y avait un seul et même tout qui s'exprimait d'une même voix. Qu'est-ce que faisaient ces personnes mobilisées comment ces personnes apparemment assez éloignées au début, c'est ce qu'on voyait en tout cas, des organisations qui participent habituellement aux mouvements sociaux, comment ces personnes-là arrivaient à avoir un rôle assez central dans ce que l'on observait. Du coup, on est parti sur l'idée de faire une ethnographie, donc d'avoir un rapport assez proche, inductif, et avec un questionnement qui allait se construire dans le temps, en se laissant un petit peu en interrogation. C'est justement l'idée, enfin, le premier enjeu, c'était de restituer, de renseigner ce qui se jouait à l'intérieur du mouvement entre différents acteurs et actrices qu'il composait. Et donc, ça justifiait une première phase d'observation participante, puisqu'on voulait également, puis on pensait que c'était le meilleur moyen de réaliser cette enquête, de participer en tant que Gilet jaune également. Tiens, en nous invitant, nous parler d'un papier qu'on a écrit dans une revue, La vie des idées. C'est un papier qu'on a écrit en avril 2019. Pour nous, c'était un premier temps de problématisation un peu de notre enquête. On avait plusieurs questions, plusieurs observations à cinq. Hein. C'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment un premier temps pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire des données qu'on avait récoltées. On a décidé de se questionner sur les épreuves de l'engagement en dissociant différents temps dans le mouvement, différents temps qu'on voit aussi dans le discours que Chloé et Bérangère vous avez témoigné. Hein. Ces différents temps, en quoi ça pouvait constituer des épreuves à l'engagement à un niveau individuel et aussi collectif, à la cohésion des Gilets jaunes, et puis qu'est-ce que ces recompositions du mouvement faisaient aussi aux acteurs, comment ça travaillait les acteurs et les actrices du mouvement. Donc on a écrit ça à un moment où nos enquêtés, pour eux, n'était plus possible d'aller sur un rond-point. Et donc on avait clairement, on voyait les difficultés que ça pouvait représenter dans l'organisation, dans la poursuite du mouvement. Les épreuves de l'engagement, elles se recoupent en partie aussi avec les épreuves de l'enquête, partiellement. Mais donc nous, on ne pouvait plus ethnographier le mouvement, à part continuer à participer aux différents actes le samedi. Et donc on a diversifié aussi nos matériaux, on a mené des entretiens avec les acteurs qu'on avait rencontrés. Donc première campagne d'entretien en janvier 2019, et puis une deuxième qu'on est toujours en train de mener actuellement. On a commencé un an après l'anniversaire du mouvement, enfin à l'anniversaire du mouvement. Donc, avec les entretiens, on a accès aux trajectoires des individus, l'idée, c'était de resituer le mouvement des Gilets jaunes dans des trajectoires plus longues, voir l'évolution, qu'est-ce que ça pouvait raconter de l'évolution du rapport aux politiques, aux institutions, voilà, pour nous inquiéter. Donc interroger ces effets, resituer le mouvement dans une socialisation politique, donc, c'est-à-dire une évolution, des rapports aux institutions et plus largement aux politiques, même si c'est encore un peu tôt pour pouvoir vraiment faire ce travail-là, l'enquête n'est pas finie. C'est un des derniers questionnements qu'on a essayé de développer sur notre enquête. Donc voilà, on va revenir un peu sur ces différents temps et voir comment aussi ça, l'évolution du mouvement a conduit à faire évoluer nos questionnements. Donc je redis rapidement, donc, qui sont les Gilets jaunes sur les ronds-points de mobilisation que nous, sur lesquels on était, comment s'entretient une certaine cohésion au moment où on l'observe et à quelle épreuve celle-ci, quelles épreuves pèsent sur cette cohésion et en même temps sur l'engagement individuel. En observant des tensions qui s'exprimaient à ce niveau-là et qui découlaient de cette recomposition du mouvement, on a vu émerger des variables assez structurantes, en fait, qu'on pense assez structurantes sur l'engagement et qui viennent remettre un peu les questions de genre, de classe ou de race, alors avec des guillemets, hein, c'est prend comme variable sociologique, on pourra en dire deux mots peut-être dans les échanges. Et puis, pour arriver à la fin sur ces questions de qu'est-ce que le mouvement fait au rapport aux politiques. Donc je te laisse la parole, Jean-Baptiste, pour commencer là-dessus.
Alors, ben merci encore une fois pour l'invitation et merci pour vos deux premières interventions qui nous ont plongé en fait dans toutes les questions qu'on se posait et qu'on se pose encore sur ce mouvement, etc., qui moi m'ont plongé en fait sur la manière dont on est rentré dans le terrain. Tu parlais de ton agacement face aux réactions de ton conjoint. Donc nous, c'est vraiment ça. C'était pourquoi on y allait. On est énervé face au mépris qu'on constate autour de nous, notamment dans le milieu universitaire, mais pas que. Qui sont ces gens qui s'agitent avec leur gilet jaune, etc. Donc énervé par ces réactions-là qu'on constate autour de nous, mais aussi énervé surtout par les réactions médiatiques, pseudo-scientifiques de l'époque sur la France périphérique qui se réveille, voilà, etc. On décide donc d'aller voir de nos propres yeux. Alors on était allé individuellement chacun. De notre côté, Antoine dans l'Ain, moi en Haute-Savoie le 17 novembre. Et puis, donc, comme on travaille à Lyon, on se dit qu'on va investir le terrain de manière plus longue à partir de la fin novembre. Donc fin novembre 2018, on se rend en manifestation avec des questionnaires pour monter une enquête quantitative qui avait été suscitée par une équipe de travail à Bordeaux et puis à laquelle Étienne a participé. Mais bon, très rapidement, on se rend compte que l'administration du questionnaire, c'est un petit peu compliqué. Il vaut mieux observer ce qui se passe, faire partie du mouvement et puis participer au mouvement des Gilets jaunes pour comprendre ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Donc, grosso modo, on se rend sur ce rond-point. Hein, donc, c'est pour ça que j'explique tout ça. Hein, c'est pour retracer la démarche d'enquête qui est quand même importante pour comprendre les questions qu'on s'est posées. On se rend sur un rond-point qui est donc le rond-point d'une ville qui s'appelle Fézin, qui est dans le sud de Lyon, qui est une ville de la banlieue populaire lyonnaise, une petite ville mais connue puisque c'est à Fézin que se trouve la plus grande raffinerie du sud-est de la France et se trouve toute une série d'installations industrielles pétrochimiques. Donc, on se rend là-bas parce qu'on sait qu'il y a un rond-point qui est occupé, on nous l'a dit durant la manifestation, de cette manière on nous invite à y aller. Et puis on a un réflexe, hein, à mon avis, militant, on sait que Fézin est un lieu de mobilisation historique à Lyon, donc on y va dans cette optique-là. Et donc comme l'a dit Antoine, on y passera grosso modo un mois et demi de manière presque permanente, enfin en tout cas très durable. Jusqu'à la disparition du rond-point. Et ensuite, on y retournera à chaque tentative de reconstruction, etc. Mais on suit, grosso modo, l'évolution. Alors, je vais rapidement revenir un petit peu sur ce que ça veut dire, la spécificité hein, de notre approche de sociologue, ce que veut dire faire du terrain en tant qu'observateur, et pour essayer de réfléchir à la manière dont on s'est posé justement des questions. Parce que c'est bien la spécificité du terrain, donc c'est-à-dire le camp sur le rond-point, qui a induit hein, notre attitude scientifique, c'est-à-dire le fait de s'immerger à l'intérieur du rond-point sur le long terme pour comprendre ce qui s'y passait, et d'abord de s'y immerger sans dévoiler le fait qu'on faisait une enquête. Alors, effectivement, on ne savait pas vraiment ce qu'on y faisait. On ne savait pas si on faisait une enquête, si on était militaire, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait voir, on voulait partager, on voulait passer du temps sur le rond-point. Et rapidement, effectivement, on s'est rendu compte qu'il était intéressant de prolonger ce travail-là par une enquête qu'on a mis effectivement 2 semaines avant de la dévoiler aux acteurs du rond-point. Donc on n'a jamais caché le fait qu'on était étudiant, doctorant en sociologie, etc. Mais le projet, après on parlait de l'enquête, a mis du temps à se dévoiler, ce qui a induit chez nous 2-3 moments de grosse paranoïa, mais qui tout de même nous a permis quand même de nous fondre dans le rond-point avec notre identité effectivement de précaire, d'enseignant-chercheur, etc. Mais sans effectivement présenter d'abord l'enquête. Donc il y a des questions qui ont façonné notre entrée sur le terrain, notre immersion. D'abord, effectivement, c'est qui sont les Gilets jaunes. Et la meilleure manière de répondre à qui sont les Gilets jaunes, ça veut dire qui sont-ils sociologiquement, qui sont-ils politiquement, qui sont-ils d'un point de vue professionnel, etc. La meilleure manière d'y répondre, ça a été donc de discuter. Et le rond-point s'y prête parfaitement, puisque le rond-point, c'est un lieu dans lequel les gens discutent de leurs conditions matérielles d'existence en permanence, les gens discutent de leur quotidien, etc. Donc faire le travail d'enquête sur un rond-point, c'était une chose absolument... absolument anodine en fait, et presque très très simple. Et puis ensuite, on se pose la question en tant que sociologue de comment s'investir à l'intérieur de son point, etc. Et comment, grosso modo, être des sociologues militants, etc. À l'intérieur du rond-point. Donc évidemment, on participe à la vie du rond-point en amenant de la même manière que l'ensemble des participants et des Gilets jaunes. Du rond-point des uns, on amène des vivres, on participe aux discussions, etc. Mais ce qui nous garantit une forme d'insertion dans le milieu militant gilet jaune de Faisin, c'est d'abord la participation à des actions qui se passent très souvent en semaine, la nuit, donc actions autres que les manifestations du samedi, que sont notamment les maraudes auxquelles on est associé, donc les gilets jaunes de Faisin réalise des maraudes dans le centre-ville de Lyon pour apporter des vivres au son domicile fixe. Donc on participe avec eux aux maraudes, mais on s'est très vite rendu compte en fait qu'on n'était pas complètement immergé dans ce coin, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui nous échappent, notamment des actions d'occupation de sites industriels, de logistique, etc., auxquelles on n'est pas convié, sur lesquelles on n'est pas tenu au courant. Donc ça, j'y reviendrai. Et puis on est progressivement accepté aussi à l'intérieur du rond-point, puisque par la discussion, grosso modo, on sympathise avec toute une série d'acteurs qui sont de gilets jaunes qui sont sur ce rond-point, qui estiment que l'on est de confiance, grâce auxquels on va gagner, avec lesquels on va entrer en sympathie, et donc évidemment qui vont nous aider pour notre enquête et qui vont être une importante source d'informations. Grosso modo, faire du rond-point un lieu d'observation, voilà pourquoi je vous disais tout ça, c'est se donner la possibilité de s'intéresser à certaines choses et pas à d'autres. Donc à quoi on va s'intéresser en faisant de l'ethnographie et en faisant une enquête qualitative à l'intérieur du rond-point? C'est d'abord à l'organisation de l'espace de la mobilisation. Comment la mobilisation s'organise-t-elle de manière très pratique et très concrète? Ça veut dire quelle est la division du travail militant, division sexuée, division genrée, division sociale du travail militant, comment se répartissent les tâches à l'intérieur du rond-point, donc on va s'intéresser à ça. Et on va s'intéresser à la manière dont un espace collectif est géré. C'est-à-dire comment certaines normes, et ça vous en parliez, comment certaines normes émergent pour garantir la cohésion et l'unité du mouvement à l'intérieur de cet espace spécifique. Et puis on va très vite se rendre compte que le rond-point, évidemment, n'est pas un espace homogène, c'est un espace très hiérarchisé, avec une hiérarchie sociale importante. Et donc vous en avez largement fait écho jusqu'ici. On s'est intéressé très très vite aux conditions d'émergence de leaders, en tout cas de forme d'autorité à l'intérieur de cet espace qu'est le rond-point, et aux manières de devenir un leader. Donc ça, moi je serais tout à fait... de toute façon, je pense que vous avez déjà dit plein de choses qu'on va répéter, mais discuter sur comment en fait on devient en fait un leader quoi, à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, et puis comment on se construit une légitimité un petit peu à l'intérieur de ce mouvement. Et donc grosso modo, en faisant de l'ethnographie et en faisant une enquête sociologie qualitative sur le long terme, c'est vrai qu'on répond moins à des questions qui sont plutôt attendues d'habitude de la part notamment des médias, etc., du type « qui sont les Gilets jaunes ?». Parce qu'en fait, à cette question, on ne peut absolument pas répondre. C'est évidemment les enquêtes quanti avec un gros nombre de questionnaires distribués qui permettent d'y répondre, mais surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la question qui sont les Gilets jaunes ne tient pas vraiment. Parce que, tout simplement, le mouvement des Gilets jaunes est divisé, fractionné. Qui sont les Gilets jaunes, c'est pas du tout la même chose quand on étudie, et ça Antoine nous montrera bien, la situation dans le rond-point de la banlieue populaire de Fézin, que dans le centre-ville, que les assemblées générales du centre-ville. C'est pas du tout la même chose donc dans l'espace, donc ça veut dire dans l'espace social, hein. Et c'est pas du tout la même chose dans le temps. Les Gilets jaunes de mi-novembre, décembre, etc. sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on retrouvera en février-mars, et a fortiori ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, toute cette question de qui sont les Gilets jaunes, on l'a progressivement évacuée, parce qu'elle nous semblait, en fait, poser problème. Donc, je vais essayer de, ici, juste donner quelques résultats, hein. Alors, toujours un peu modeste, parce que, bon, c'est toujours en cours de réflexion, mais en tout cas, les choses qu'on a pu observer, hein, en étant sur ce rond-point là-bas. Et donc, ce qui nous a intéressé, nous, c'est comment le rond-point est un espace de mobilisation propice à la mobilisation de groupes qui, juste ici, étaient plutôt tenus à l'écart du politique. C'est-à-dire classe populaire, les femmes, et un surinvestissement des femmes par rapport à ce qu'on observe habituellement dans les partis, les syndicats, etc., et les personnes racisées. Donc, le rond-point, on l'a vu, hein, c'est, on a essayé de chercher à comprendre pourquoi ces groupes qui sont habituellement loin du politique se sont mobilisés, et surtout se sont mobilisés sur le temps long. C'est ça qui nous intéresse, parce que mobilisation, à la limite, il y a la durée, mais c'est le temps long qui nous intéresse. Donc, ce qui nous a semblé extrêmement intéressant à l'intérieur des ronds-points, là je parle vraiment de l'espace des ronds-points, c'est d'abord le fait que les pratiques militantes ordinaires du rond-point ont relégitimé des répertoires favorables, ce qu'on appelle des répertoires d'action, hein, favorables à l'investissement des groupes d'origine populaire. Tout simplement, la discussion qui constitue le béaba en fait, du militantisme sur le rond-point, on y va d'abord pour discuter, pour échanger sur son quotidien, sur son vécu, sur ses conditions matérielles d'existence. Eh bien, c'est un répertoire d'action qui est considéré comme légitime. Ça peut paraître tout bête, mais c'est un exercice qui n'est pas du tout pratiqué, par exemple, dans des partis politiques où la discussion sur le quotidien, sur les conditions d'existence tout à fait ordinaires, a disparu, hein, des pratiques comme le montrent les sociologues du Parti Socialiste, par exemple, Rémi Lefebvre, Félix Salicki, qui montrent que parler de soi et parler de son quotidien, c'est pas du tout légitime à l'intérieur des partis. Alors que sur le rond-point, c'est le béaba et c'est l'ordinaire de ce qui s'y passe. Donc, ça favorise, en tout cas, ça sécurise l'investissement des groupes populaires qui étaient tenus à distance. Et puis, sur le rond-point, il se passe toute une série de choses, de transactions, une sorte d'échange, etc., entre des ressources, on y amène des vivres, mais on y amène aussi du bois pour les cabanes, on y amène du matériel de chauffage, on y amène toute une série de choses nécessaires au déploiement du camp, et qui, là aussi, sont souvent liées aux professions. On avait des gens qui étaient des gens qui travaillaient dans des scieries, ou des gens qui travaillaient dans des... avec le bois, etc., qui, de fait, pouvaient s'investir et pouvaient amener et étaient considérés comme ultra légitimes, puisque c'était eux qui, de fait, étaient ceux qui aidaient à bâtir hein, le camp. Donc on a tous ces moyens qui sont rendus possibles par ce qu'est hein, le rond-point. Et puis, le rond-point favorise aussi l'investissement de savoir-faire militant, d'action directe, alors qu'elle soit pacifique ou non, comme les maraudes, etc., qui sont des savoir-faire prisés par des associations caritatives, etc. Donc toute une série de savoir-faire qui rapprochent en fait les militants d'origine plutôt populaire du militantisme dans les Gilets jaunes. Et donc ça, ça nous a frappé et ça distingue nettement le mouvement, évidemment, mais ça c'est un truc que je veux dire, distingue nettement le mouvement des Gilets jaunes des formes plutôt traditionnelles et ordinaires hein, de mobilisation politique, que ce soit celle des partis politiques ou des syndicats. Par ailleurs, le rond-point de Fézin, qui est celui qu'on a étudié, se distingue des autres parce qu'il est investi par des personnes racisées et notamment des gens de banlieue. Et c'est un investissement qui a été rendu possible par le fait que ces acteurs aient rapidement investi le camp, et ils ont, ces acteurs et actrices, hein, il y avait beaucoup de femmes racisées, ont contribué à la définition des normes sur le camp, et notamment à la mise à distance directe et relativement efficace de la tenue de propos racistes, hein, qui étaient tout de suite vertement réprimandés. Et donc leur investissement durable sur le camp a garanti grosso modo la stabilité de ces normes. Hein, sur le camp qu'on a étudié. Et ces normes-là, donc normes qu'on pourrait qualifier de critiques vis-à-vis d'attitudes racistes, etc., sont favorise hein, l'engagement d'acteurs racisés qui voient dans le camp de Fezzin un espace sécurisé pour leur investissement militant. Et par ailleurs, ça favorise l'investissement d'acteurs et d'actrices, eux non racisés, mais en tout cas sensibles au fait que le rond-point de Fezzin n'est pas un rond-point, comme on a pu nous le dire, de bourrin ou de facho. Voilà. Où les opinions antiracistes, etc., ont lieu d'être, et surtout les opinions racistes n'ont pas lieu d'être. Donc ce qu'on s'est rendu compte, au travers de cette question du rond-point racisé, ou du rond-point en tout cas favorable à un investissement pour les personnes sensibles à cette question du racisme, c'est qu'on choisit d'une certaine manière son rond-point. Et c'est notamment le cas de cette personne qui nous disait qu'elle préférait, même si ça lui faisait faire beaucoup plus de voitures, aller à Fezzin, ça lui faisait traverser toute l'agglomération lyonnaise, parce que le rond-point qu'elle citait, qui était à Bénaud, qui se situe au nord de Lyon, lui était rempli de fachos et ça ne l'intéressait pas. Elle préférait passer plus de temps en voiture, aller dans un rond-point qui lui semblait sécurisé pour s'y investir. Donc on choisit, c'est ce qu'on s'est rendu compte, on choisit d'une certaine manière, il y a des affinités sélectives, on choisit son rond-point. Et puis dernière chose, comme ça a été souvent souligné, le mouvement est constitué de beaucoup de femmes. Et c'est un petit peu dans le même sens de ce que je disais jusqu'ici. L'investissement des femmes, et surtout l'investissement sur le temps long, est lié est une question qui nous a largement intéressés. Parce que, malgré tout, le mouvement des Gilets jaunes a été construit sur une valorisation de la figure d'un militant guerrier, d'un militant d'action directe, etc., notamment en manifestation, qui renvoie plutôt, d'un point de vue du genre, à des normes masculines. Et donc, qui a pu susciter parfois la crispation, etc. Mais néanmoins, le répertoire d'actions qui constitue, dont je parlais tout à l'heure, favorable à l'investissement des classes populaires, qui est le registre du témoignage, propice à une politisation du quotidien, d'activités domestiques, etc., et lui aussi largement favorable à l'investissement durable en fait des femmes, qui, du point de vue des assignations de genre, hein, sont souvent reléguées hein, à l'espace domestique. Et donc, de fait, les femmes peuvent trouver un espace dans lequel l'investissement et tout du moins plus probable. Donc ça nous a semblé trois choses qui permettaient hein, de comprendre pourquoi des groupes jusqu'ici tenus à distance du politique étaient présents durablement. Le temps des ronds-points nous semble être un moment vraiment favorable à l'investissement, disons, de ces groupes, souvent, pour reprendre les catégories ordinaires de sociologie, de groupes dominants. Alors, qu'est-ce qu'on observe par ailleurs sur rond-point, et ça sera mon deuxième point, du point de vue de la division hein, du travail militant. Effectivement, rond-point, c'est un espace peuplé, enfin, en tout cas à Fezzin, hein, par des gens d'origine populaire ou petite classe moyenne, etc. Mais là encore, on a été soucieux de ne pas homogénéiser ce qu'on voyait. Il ne suffit pas de dire à Fezzin, il y a des classes pop. Ouais. Il faut aller voir ce qui se passe très concrètement, et notamment des divisions à l'intérieur des groupes classes populaires qui souvent peuvent rentrer en conflit, comme c'était le cas avec les personnes racisées, etc. Et donc il y a toute une série de stratégies qui reposent sur la capacité à neutraliser les conflits. Et ça, vous en parlez bien. Comment on fait pour faire en sorte que les fachos soient pas fachos, mais en même temps restent, parce que c'est aussi le but. Et donc, ça, alors là, j'apprends absolument rien. Enfin, je veux dire, on a remarqué tout le long le travail de ceux qu'on va considérer comme étant les leaders à faire en sorte de réaffirmer le caractère apolitique ou sinon apolitique, apartisan du mouvement et à tout de suite mettre à distance les tentatives de partisanisation ou en tout cas de politisation un peu frontale des enjeux. Que ce soit de droite comme de gauche, avec notamment aussi parfois une critique un peu, et là c'était plutôt les militants syndicaux, une critique de l'affrontement capital-travail un peu dur, qui, oui mais les petits patrons, enfin on connaît un petit peu, voilà. Donc tentative un petit peu de d'adoucir le caractère clivant de la politique sur le rond-point. Comment aussi cet espace tient, parce que c'est ça, on s'est demandé comment tout ça tient, comment les gens ne sont pas... les différentes fractions tiennent entre elles, etc. On observe que l'espace du camp hein, est reproduit de cette manière une division de l'espace social, c'est-à-dire qu'en fait les gens participent tous en même temps au rond-point, sont tous sur le rond-point, mais tous ne se parlent pas, évidemment. Il y a des affinités qui se créent sur le rond-point, affinités d'abord générationnelles, mais aussi de genre, parfois même, et certainement en fait, ça moins l'objectiver, mais relative aux frontières sociales, etc. Mais en tout cas, de génération et de genre, c'est assez manifeste sur le camp, et ça a pu parfois créer des malentendus, certaines personnes en assemblée générale, disant oui, nous à Fezzin, alors que d'autres de Fezzin qui étaient dans la salle disaient « mais autant, t'as jamais vu, comment tu peux dire que t'es Fezzin ?» Tout simplement parce que les gens participaient aux mêmes actions au même moment sur le camp, mais ne se croisaient pas du fait de division de l'espace social qu'on retrouvait. Alors, progressivement, on s'est intéressé à la manière dont on devient un leader dans le mouvement. Parce qu'on s'est rendu compte, contrairement à tout ce qui était véhiculé, notamment dans les médias, etc., que ce mouvement, ce n'est pas qu'il était constitué d'aucun leader, c'est qu'il était constitué d'une multitude de leaders qui tous, malgré tout, alors c'est une de nos hypothèses, hein, revendiquaient un petit peu des formes de leadership dans certains espaces. Et donc, dans le cas qu'on a observé, dans le cas de Fezzin, on a observé très très rapidement qu'il y a un groupe qui va progressivement occuper hein, des positions de leadership ou en tout cas d'autorité à l'intérieur de cet espace. Et c'est extrêmement intéressant parce que quand vous interrogez d'autres personnes qui étaient très investies sur ce rond-point de Fezzin, ceux-ci parlent du groupe de leaders en disant « les gens de Fezzin ». Alors que la personne qui prononce ces mots-là a lui-même participé pendant 2 mois à l'occupation du camp de Fezzin et pourrait revendiquer le titre de Jean de Fezzin. Mais en tout cas, les gens du rond-point qualifient ce petit groupe de les gens de Fezzin pour parler en fait de cette petite chefferie qui s'était constituée. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, on observe que c'est un groupe d'acteurs plutôt jeunes, entre 19 et 35 ans, pour la plupart racisés, ayant une trajectoire résidentielle en fait assez similaire. C'est souvent des gens qui sont issus de banlieues, ou en tout cas de quartiers populaires, et puis qui pour certains sont plutôt stabilisés à présent, et qui partagent des affinités politiques. Alors quelles sont les ressources qui font que ces acteurs parviennent à se positionner en position de leader? Et là, on pourra en discuter. Donc, d'abord, c'est le temps d'investissement, la capacité à dégager du temps pour s'investir. Donc le fait qu'ils soient jeunes, c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui sont célibataires, etc. Donc ils ont du temps pour s'investir sur le rond-point, qui dégagent du temps pour le faire. Mais ce qu'on s'est surtout rendu compte, c'est que la ressource sur laquelle repose le leadership, c'est la capacité à contrôler l'information. Et on en a nous-mêmes été en fait, victime entre guillemets, parce que l'information, c'était quoi? C'était d'abord un groupe Facebook fermé, et donc c'était la capacité à contrôler l'information. J'ai pas vu le temps. Voilà, capacité à contrôler l'information et contrôler les outils d'information.
Si tu peux juste dire deux points, enfin, parce que sur cette question du leadership, que nous on a observé à partir de ce rond-point, hein, donc de banlieue populaire, industrielle, on l'a surtout vu se confirmer, ou plutôt s'affirmer, dans un autre temps qui est celui de la fin des ronds-points, enfin plutôt où le mouvement prend d'autres formes. Et donc ça, c'est finalement, alors que s'intensifient les interactions entre ces gilets jaunes qui participent d'abord avant tout depuis un lieu qui est celui du rond-point, donc la confrontation, les interactions entre ces gilets jaunes et les autres gilets jaunes de l'écosystème de la mobilisation lyonnaise, c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'on voit se renforcer ces fonctions de leadership. Pourquoi ? Bon, déjà parce que comme il n'y a plus de rond-point, il n'y a plus d'espace un peu où le mouvement peut s'organiser, où on peut faire des départs en manif, même si c'est des manifs qui se font dans le centre de Lyon. Du coup, le centre de Lyon va devenir l'épicentre de la mobilisation. Notamment parce que surtout les gros ronds-points en fait, sont ceux qui sont démantelés le plus rapidement par la police. Ils sont les plus gênants et le rond-point de Fezzin en fait partie. Du coup, pour donner la continuité à ce groupe de Fezzin, finalement, c'est dans les manifestations du centre-ville de Lyon que ça se joue, quoi. Et en gros, ceux qui ont peu à peu, conquis une certaine visibilité depuis ce rond-point-là, vont être ceux qui vont essayer d'organiser dans ces manifestations un peu la continuité du rond-point en manifestation. Alors ça passe déjà par essayer, comme c'est des manifestations souvent tendues, où il y a beaucoup d'événements, de confrontations avec la police qui s'y passent, il y a aussi une bienveillance à rester ensemble, et on va voir d'abord les personnes qu'on a identifiées plus, et ces personnes-là vont aussi essayer voilà, de reconstituer. Alors tous ceux qui sont qui étaient sur le rond-point ne retournent pas dans ces c'est pas tout à fait des cortèges, mais on retrouve des groupes hein, dans les manifestations. Et ceux qui restent ensemble sont un peu ceux qui sont autour et presque principalement les leaders, les personnes qu'on a identifiées comme leaders. Mais dans le centre-ville de l'agglomération, ces derniers vont être confrontés aux autres groupes et surtout aux autres individus, aux autres groupes d'individus qui sont aussi candidats, malgré eux, hein, c'est pas forcément revendiqué, mais à des fonctions de leadership. Et donc ça se voit très concrètement parce que en manifestation, et puis alors une série de manifestations qui vont se faire aussi à l'appel des syndicats, enfin plutôt une en particulier, le 5 février, et qui va mélanger un peu aussi les différents mobilisés. Et par exemple, sur cette manifestation du 5 février, les gilets jaunes qu'on a identifiés essayent de, à la fin du cortège, du défilé plutôt, d'appeler à la continuité, on va partir en manif sauvage, hein, ce qu'on appelle manif sauvage. Et pour cela, ils ne savent pas vraiment, enfin, ils cherchent à aller au camion de la CGT, puisqu'il y a un camion de la CGT pour avoir le micro, puisqu'il y a des, une série de déclarations, et on va leur dire, par exemple, c'est une interaction dans laquelle j'étais présent, on va leur dire, oui, bon, on peut vous inscrire, alors j'avais noté directement, ce sera peut-être plus... Vous pouvez prendre la parole, bien sûr, mais chez nous, c'est chacun son tour. Il y a déjà une liste d'attente, c'est aussi ça la démocratie. Voilà. Et comme le but, c'était de créer une action qui se déroulait, bon, finalement, il n'y a pas la prise de parole. Bon. C'est qu'un exemple, mais il y a une multitude d'autres exemples de ce type-là, où se retrouver avec un mégaphone, aller demander à un mégaphone pour aller passer un message, ça se fait en réactivant déjà des compétences matérielles qui n'ont pas forcément des mégaphones en l'occurrence, ou alors compétences d'aisance orale qui ont des coûts, qui ne sont plus les mêmes compétences qui étaient investies sur le rond-point, et même pour les personnes qui étaient faisaient le plus de vidéos, mais on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi beaucoup de vidéos, donc reliées sur Facebook, tout ça. Pas forcément le même exercice que prendre la parole devant un public, et donc voilà, on retrouve ça, c'est aussi des éléments qu'on va retrouver dans les assemblées générales de centre-ville, qui sont un peu le deuxième répertoire d'action qui prend beaucoup de place à partir de ce moment-là, hein, c'est les manifestations et les assemblées générales. Donc je ne reviens pas là-dessus, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez raconté, hein, les assemblées générales de centre-ville avec des commissions. Et globalement, le public... Alors, nos enquêtés y vont. Hein, peu à peu, sont les seuls à porter le gilet jaune dans ces assemblées. Et en fait, le fait d'avoir milité sur un rond-point, d'avoir tenu un rond-point pendant un an, ça ne constitue plus, ou de moins en moins, une source de légitimité pour se revendiquer comme leader, ou en tout cas pour être... Pour essayer d'avoir des positions d'autorité, essayer d'être de proposer des modes d'action. Voilà. Et inversement, il y a d'autres compétences qui sont mises en avant. Donc on a d'autres enquêtés qui sont du centre-ville de l'agglomération, qui ont plus de ressources, ont plus de capital scolaire, ont plus d'aisance orale, qui ont plus de grilles de lecture aussi. De lecture du monde social plus développé, qui sont capables de développer, de participer à un débat d'idées à partir de ces grilles de lecture, donc notamment les personnes qui font partie d'un syndicat, d'un parti moins, on a moins vu. Mais ce sont voilà, des éléments qui sont dans ces assemblées de centre-ville, qui sont mis en avant, de fait. Et. Par exemple, nos enquêtés, quand il y a l'Assemblée des Assemblées à Commercy, la première fin janvier, eux, ils ne voient pas trop vraiment quel est l'enjeu de ça. Ils ne sont même pas trop informés non plus. Ils savent qu'il y a un truc, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Alors que nos autres enquêtés du centre de l'agglomération, pour eux, c'est un enjeu. Il faut y aller, il faut y être. Et de fait, ce sont eux qui vont s'y retrouver. Et le fait d'y avoir été, inversement, renforce la position de leader dans le centre de l'agglomération lyonnaise, alors que du coup, ceux que l'on suivait se sont fait un petit peu, sont passés à côté de cette distribution de capital pour peser dans l'arène locale du mouvement. Alors pour autant, simplement, ça c'est mon deuxième point, je vais aller vite, mais même si on observe clairement des rapports de domination avec ces recompositions du mouvement, ce qu'on a observé, c'est que nos leaders de Faisin vont se réapproprier aussi ces nouveaux répertoires d'action, non pas pour reparticiper dans ces assemblées générales du centre-ville, mais pour faire d'autres assemblées à leur manière, qui ne sont pas organisées sur le même mode, qui sont organisées plutôt en périphérie lyonnaise, pas forcément à Faisin. Alors ça commence autour de Faisin, et puis ça va jusqu'à d'autres communes, comme Vénissieux, qui est aussi une importante ville de la banlieue populaire industrielle lyonnaise. Et donc dans ces assemblées générales, on continue de valoriser fortement le registre du témoignage. Alors dans les assemblées lyonnaises, ça avait commencé aussi un petit peu sur ce registre-là, mais peu à peu, soit les impératifs d'organisation ou de débat proprement sur le mot d'ordre, sur est-ce qu'on tolère ou pas les personnes qui ont des propos racistes, enfin. Ça a été en fait le témoignage mis un peu sur le côté. Donc là, on réinvestit fortement ça. Il n'y a pas dans ces assemblées faites par le groupe de Faisin de décision collective. Il n'y a pas de vote. C'est organisé par ce groupe de leaders-là. Ils sont organisés par ce groupe de leaders. Parfois, la presse et certains élus locaux sont invités et du coup, ils viennent. Ils viennent généralement avec la presse. Ce qui contribue à relégitimer un peu, nos leaders de Faisin ont de nouveau parfois un aura médiatique avec ces assemblées. Donc finalement, ça vient renforcer leur position de leader sur un espace qui est le leur, qu'ils construisent comme étant le leur et qui n'est pas celui du centre-ville. Donc il y a ça qui est assez. Il y a un vrai enjeu, un véritable enjeu autour de ce renforcement de la place de leader, si bien qu'on ne pourra pas leur contester en fait le monopole de la représentation des gilets jaunes de banlieue populaire, entre guillemets, mais ce qui ne va pas non plus leur servir à peser davantage sur la direction, entre guillemets, du mouvement local, puisque à partir de ces assemblées de périphérie, ils n'arrivent pas non plus à reconstituer des bases militantes ou suffisantes pour ensuite aller peser sur la direction. Et notamment, ils n'arrivent pas à peser sur l'organisation d'événements, de manifestations, d'actes en banlieue, ce qui est aussi un des éléments sur lesquels ils essayent de... On trouve plusieurs échanges, notamment sur Facebook, entre différents groupes, où l'enjeu, c'est de faire des événements aussi en banlieue, et donc ça ne se produit pas. Ils n'arrivent pas non plus à peser sur certains thèmes qu'ils pensent comme prioritaires, donc notamment la façon d'envisager, de parler des violences policières, puisque quelques-uns de ces leaders ont eu des expériences de violences policières antérieures au mouvement, dans le cadre de confrontations situées dans les banlieues populaires, qu'ils estiment prioritairement destiné aux personnes racisées. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important qui rentre en confrontation à partir du moment où on dit, par exemple, sur les brigades anticriminalité, les BAC qui sont mobilisés dans les manifestations, on dit, dans le centre-ville, les BAC hors des manifs, est-ce qu'il est compris très largement que la BAC retournée en banlieue, quoi. Est-ce qu'il y a, voilà. Et là-dessus, il y a quand même des échanges importants. Qui sont assortis de témoignages, comme je disais, notamment l'un des leaders qui, pour le coup, n'utilise pas souvent le témoignage et essaye plutôt de sortir qui n'est pas très client, ouais, du registre du témoignage dans les assemblées qu'il a précédemment organisées, pour l'assemblée qui aura lieu à Vénissieux, va réinvestir, pour le coup, sa trajectoire comme modalité de débat, en témoignant notamment sur son couple qu'il qualifie de mixte, puisqu'il est avec sa femme et de confession musulmane, et donc il revient là-dessus, il revient aussi sur d'autres éléments que je disais précédemment concernant les violences policières. Et ce sont des éléments pour renforcer une inscription du mouvement des Gilets jaunes en banlieue, essayer de peser sur la direction du mouvement. Alors on parle de semi-exit parce que, en fait, au vu de ces échecs ou de ces confrontations malheureuses, puisque ça donne lieu à des crispations, hein, souvent avec les autres groupes de Gilets jaunes, notre groupe de leaders va se dissocier du mouvement Gilets jaunes au bénéfice d'autres groupes auxquels ils font partie. Donc il y a notamment un groupe qui s'appelle l'article 35, en référence à l'article 35 de la déclaration droits de l'homme sur le droit d'insurrection, qu'ils ont monté parallèlement en même temps que le mouvement, et puis qu'ils vont finalement réinvestir et investir plus comme étiquette que l'étiquette Gilets jaunes, donc en continuant un temps de se mobiliser sans revendiquer vraiment une appartenance au mouvement des Gilets jaunes, ou plutôt en s'en dissociant. Donc pour juste finir là-dessus, c'est en fait un peu comme si... un peu comme si les recompositions du mouvement et le changement de centralité locale au profit du centre-ville avaient donné à voir à ces acteurs et à ces actrices les lignes de fracture pouvant sinon les opposer, en tout cas les dissocier, changer l'ordre des priorités dans les revendications, y compris dans les revendications et dans les formes de la mobilisation, jusqu'à tendre voilà, à des mouvements pas forcément concurrents, parce qu'il y a encore des événements sur lesquels ils participent avec d'autres Gilets jaunes, mais en tout cas, voilà, ils dissocient.